quoi ta première rencontre avec le beau?
Waouh, quelle question! C'était en 1993, quand j'arrive pour la première fois en Australie. Et j'arrive au nord de l'Australie, donc à Cairns, avec un ami Yannick. On sort de l'avion là, donc nous, habitants de la cité Maurice Thorez à l'île Saint-Denis, on arrive au nord de l'Australie. On n'est jamais allé aussi loin de notre vie. On était parti parce qu'on en avait marre d'être ici. Donc on voulait aller voir ce qu'il y avait, enfin, ce qu'avait le monde à nous offrir. Donc on arrive là-bas et là, on tombe sur des gens hyper sympas. Et je me souviens même qu'on était tombé sur des policiers qui étaient sympas avec nous, qui nous disaient bonjour. Alors que moi, ici, dans mon quartier de Seine-Saint-Denis, on avait des rapports toujours conflictuels avec la police. Là, donc ils nous avaient dit bonjour. Et on avait d'autres rapports avec les gens. Les parents, rapports avec les nanas ou avec les gens, étaient des rapports normaux. Donc je dirais que ma première rencontre avec le beau, c'était de rencontrer des gens normaux. C'était en Australie, en 1993.
T'avais quel âge ?
J'avais 21 ans. 20 ans et demi. Voilà, presque, c'est ça. Presque 21.
Des gens normaux, c'est en fait que t'as eu des rapports normaux.
Normaux, voilà. Voilà ce que je voulais dire. C'était la première fois que j'avais des rapports normaux avec des gens. C'était pas des rapports qui étaient conflictuel, tendu. C'était juste des rapports qui étaient des rapports normaux. On me prenait là-bas pour un mec normal. Pas pour un mec qui va arracher les sacs des vieilles ou pour un délinquant, pour tout ça. Là-bas, j'étais vu comme un homme blanc, comme un Français. Comme chose que je suis, hein, puisque je suis né en France. Donc je suis français, quoi. Et c'est vrai que là-bas, c'est là-bas que je dirais même presque ma première rencontre avec la France, ça a été en Australie. Donc c'est ça qui est assez drôle.
Parce qu'on t'a considéré comme un Français.
Voilà, comme un citoyen français. Et quand tu es français en Australie, à l'autre bout du monde, donc c'était il y a presque 30 ans, tu jouis d'un statut en fait exotique, quoi. Tu es le French lover, la France c'est la mode, c'est le vin rouge, c'est la classe, quoi. Donc j'avais pas les mêmes rapports, quoi. Et j'y suis resté ensuite 8 ans. Et quand les gens te regardent d'une autre manière, tu commences par te regarder toi-même d'une autre manière.
Tu t'es senti beau?
Je me suis senti beau, ouais, c'est vrai. C'est la première fois que je me suis senti beau, alors qu'en France, je me sentais pas beau, hein. J'étais perçu sans faire ma victime, hein, mais pas par tout le monde, hein, mais j'étais perçu par une partie de la société comme une menace, comme quelqu'un qui s'intègre pas, comme tout ça, quoi. Et c'est vrai que là-bas, j'arrive là-bas, on m'appelle de Frenchie, on m'a fait bizarre. Et j'ai mis du temps à m'y habituer, à m'y faire. Et je suis resté là-bas 8 ans où j'avais plus les mêmes soucis qu'ici, quoi. C'est vrai que j'avais plus les mêmes soucis, de aussi savoir qui, en fait, j'étais. Bon, après, je suis revenu en France en 2002. Et là, bon, chasse naturelle, il revient au galop, malheureusement. Bon, après, avec l'âge, maintenant, ça ne me touche pas, hein, je m'en fous, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça me faisait mal, maintenant, je m'en fous, en vrai.
C'était un manque de pas avoir un rapport avec la beauté quand on est en colère. Parce que j'imagine quand on grandit dans un quartier où on est ostracisé par ses origines, par son statut de pauvre.
Le pauvre, ouais.
Est-ce qu'on arrive, au-delà de la colère, à voir de la beauté dans les choses? Tu dis que ta première rencontre est à 21 ans, tu n'évoques rien avant.
Ah oui. Non, alors... le beau avec les autres, hein. Mais sinon le beau, moi, il a commencé quand j'étais petit, en vrai, avec mes 7 sœurs, avec ma mère aussi, qui étaient des personnes douces, hein. Mais comme on était quand même entouré de béton, Ça, moi, je trouve que c'est dur de trouver du beau quand t'es môme, quand t'es en fait entouré de béton, quoi. Faut être honnête, quoi. Et là, maintenant que... Parce que je vis toujours à l'île Sani, là, par contre, j'arrive à trouver du beau. Mais c'est vrai que quand t'es dans tes galères... Parce que moi, j'ai aussi eu un petit passé de aussi délinquant, quoi. Et quand t'es gamin, quand t'es un peu délinquant, quand tu sais pas trop où t'en es, t'as du mal à voir du beau, alors que là, en fait, en vérité, il y en avait du beau. Et on avait du beau avec tous les repas de famille, avec aussi... moi, je me rappelle que mes sœurs, quand j'étais gamin, elles me sapaient en fille. C'était marrant, on allait jouer à la marelle, on allait jouer à la corde ensemble. Donc, non, il y a eu des beaux moments. Mais il y a eu tellement de choses dures qui en fait, sont aussi arrivées que parfois j'ai du mal à m'en rappeler. Et c'est presque comme si qu'il a fallu que j'aille en Australie pour me rendre compte de tout ça, quoi. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai parlé de l'Australie en premier, parce que pour moi, ça a été du concret. Je pense que si c'est si flou dans ma tête, c'est qu'aussi parfois j'arrive pas à aussi définir ce que c'est le beau aussi, quoi. Et ouais. C'est aussi peut-être ce qu'est ma vie en vérité, c'est que je me suis construit sur un peu du dur et tout ça, sur du moche, hein, que après t'as un peu du mal à voir le beau, quoi. T'as peut-être plus de mal que les autres.
Qu'est-ce qu'on contemple quand on a du béton qui nous ferme l'horizon?
Eh ben, alors moi, c'est plus dans les gens que j'ai connus, que j'ai croisés. Nous, quand on était petits, on avait la chance donc d'être dans un quartier où on était tous des fils de pauvres. Il y avait des blancs, des noirs, des arabes, des juifs, des asiatiques. Donc on était tous. Pour nous, il y avait qu'une seule couleur, c'était celle de l'amitié. Voilà. Il n'y avait pas de race comme on peut en avoir maintenant, quoi. Nous, on s'en battait les reins. Que l'autre, il était français dit de souche, que l'autre, il était noir, ou voilà, donc, tu vois, on avait rien à foutre. On était amis avec... Et puis là, ce qu'on aimait bien, c'était qu'on allait souvent chez leurs parents, maman. Moi, je me rappelle que des fois, j'allais au troisième étage chez une maman qui venait du Portugal. On avait des amis aussi, en fait, italiens. Espagnol. Donc il y a eu du beau plus dans nos échanges que dans ce qu'on pouvait voir, quoi. Quand on ouvrait notre fenêtre, on voyait que des barres d'immeubles, donc on restait en bas et tout ça. Donc c'est vrai que c'était. Donc je dirais que le beau, il s'est plus fait avec tous les échanges qu'on a eu entre nous. On était comme une grande famille, quoi. Et je trouve dommage, c'est que dans certains quartiers, ça, on ne l'a plus, quoi. Nous, je me rappelle que notre cité, c'était comme un... Même s'il y avait quelques problèmes, on était comme un village, quand même. Et ça, pour moi, c'était beau.
Et la beauté de... Comme on peut la définir dans une œuvre d'art, et quand je dis œuvre d'art, qu'elle soit cinématographique, musicale, tes rencontres avec cette beauté... La poésie, tu y es venu comment, toi qui maintenant écris des livres?
Ben ça a été vraiment grâce à notre salle de jeunes. On avait une salle de jeunes en bas, juste qui était en bas des tours. Donc ils étaient plusieurs grands qui avaient eu cette idée d'ouvrir cette salle de quartier. C'était d'apporter de la culture au pied des tours. Ça, c'est des trucs qu'on ne fait plus du tout. Maintenant, ils centralisent tout. Hein, donc, nous, dans notre ville, moi, quand j'étais petit, je me rappelle, hein, tu as la salle de quartier qui a ouvert en 1982. J'avais à peine 10 ans. Et c'est dans cette salle que j'ai lu mon premier bouquin, que je suis allé au théâtre. Enfin, grâce à cette salle que je suis allé au théâtre la première fois, que j'ai pu aller au musée la première fois, parce que nous, en tant que fils de pauvres, moi, mes parents ne m'emmenaient pas au musée, ne m'emmenaient pas au théâtre, ils ne m'emmenaient pas en Inde pour que je muscle mon anglais. Donc, je n'avais pas un bagage culturel de ouf, quoi. Il n'y avait pas de livres à la maison. Donc, on bricolait. Et grâce à cette... Et même, je me rappelle que j'ai même commencé à écrire dans cette salle de quartier, parce que Le mec qui gérait cette salle, il avait lancé il avait créé un petit fanzine qui s'appelait Les Échos de Lille. Et c'est là que j'ai écrit mon premier article. On allait se balader dans la ville et on posait des questions aux gens. Et là, donc après, ils faisaient des photocopies et on allait vendre ce petit fanzine. À l'époque, c'était 2 francs. Et moi, c'est grâce aussi à ce fanzine que j'ai pu partir en vacances ou j'ai pu partir en Australie. Il y a eu plein de choses qui ont été faites. Moi, ce que j'aimais bien, c'est que ce n'était pas de l'assistanat pur et dur, quoi. C'était de l'assistance, tu vois. On ne te file pas du poisson, mais on t'apprend à pêcher, quoi. Et ça, c'était stylé.
Donc, on
t'a appris
à te servir des mots et...
Moi, c'est grâce.
Les mots, ils t'ont rendu libre.
Ben, en plus, comme moi, quand je parle, il m'arrive de... En plus, je bute parfois sur des mots. Donc, pour moi, en plus, écrire, ça a été une double libération. Si, en fait, j'avais pas écrit... Je pense que je serais resté enfermé dans ma cage, en gros. Donc, il y avait une cage physique, mais il y avait aussi une cage dans la tête. Hein, parce que la prison la plus dure à... Enfin, les chaînes qui sont les plus dures à briser, moi, je pense que c'est les chaînes qui sont dedans, quoi, qui sont à l'intérieur. Croire que tu peux faire des choses... ceux qui n'ont pas grandi dans des quartiers ne peuvent pas comprendre. Moi, c'est pour ça que quand des fois, j'allume ma télé... Et quand tu as des pseudo-historiens, sociologues, journalistes, intellectuels, qui n'ont jamais mis les pieds dans un quartier et qui se permettent de parler à notre place, moi, ça me fout un peu en rogne. Et parce que c'est en fait pas blanc et noir, quoi. C'est vachement complexe, parce que quand en fait, tu entends depuis que tu es môme que tu es une grosse merde, eh ben, tu finis par le croire. Et... C'est pas en nous traitant de Kaira qu'on va... Voilà, c'est aussi avec la confiance, monter des projets. Et moi, le premier mec qui m'a maté d'une autre manière, bah, c'était le type qui avait créé cette salle de quartier. Donc, un type qui s'appelait Salah, et qui s'appelle toujours Salah. Et lui, ça a été la première personne presque belle, quoi, pour moi, qui m'a dit « Tu n'es pas une merde, tu n'es pas un loser, tu peux faire plein de choses ».
Et... C'est quelqu'un qui a ouvert pour toi le champ des possibles.
Exact, c'est ça,
qui
exactement.
Qui a ouvert la voie vers...
Vers d'autres choses, ouais.
Vers ton ascension.
Oui, c'est ça.
Mais
c'est vrai.
Niveau,
exactement. J'aurais jamais gravi la plus haute montagne du monde si, en fait, j'étais né peut-être dans un autre quartier. Hein. Nous, on avait cette chance-là. Et puis, on était une mairie rouge à l'époque, hein, féministe, hein, qui, malgré leurs défauts, comme en fait, on en a tous, et moi aussi, hein, ils mettaient le paquet sur la culture et sur la jeunesse. Ce qui n'est vraiment plus le cas maintenant. Et moi, je trouve que quand tu sacrifies la jeunesse, c'est que tu n'as rien compris. Quoi, parce que...
Comment on enseigne la beauté, enfin, toi qui aujourd'hui est connu pour ton ascension de l'Everest que tu évoquais plus tôt, je pense que tu es une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes, surtout que la façon dont tu l'as présenté, un tocard sur le toit du monde... C'est un mec pas préparé, qui n'est pas alpiniste, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas la préparation, puisque tu n'as pas les moyens d'être alpiniste, c'est quand même réservé à une certaine élite. Ça sous-entend le voyage, ça sous-entend une préparation très lourde. Tu es parti armé de ta seule volonté, justement de ce champ des possibles que tu avais ouvert ça là.
Ouais, en fait, il n'y a pas eu que ça. Je pense qu'il y avait aussi l'amour des miens aussi, quoi. Et puis aussi l'amour de mon... quartier, hein, qui est je t'aime moi non plus, hein, qui est la même chose avec la France. Hein. C'est un pays que j'aime et c'est un pays que je déteste, en fait, en même temps. Mais c'est un peu comme ça. La France, c'est ma famille, donc c'est normal que parfois je l'aime et parfois je peux pas la voir, quoi. Et ça, c'est ce que certains fachos n'arrivent pas à comprendre, quoi. Donc ils n'arrivent pas à comprendre qu'on peut avoir les deux, quoi. Qu'on peut être paradoxal, qu'on peut être bourré de contradictions. Mais on est tous bourrés de contradictions. Mais on a l'impression que nous, on a moins le droit d'être comme ça, quoi. Et donc, ouais, moi, c'est lui qui a ouvert ce champ des... Ouais, possible, mais c'est aussi, je vais être honnête, hein, c'est aussi lié à toutes mes rencontres. À chaque fois que ça n'allait pas, il y a eu quelqu'un qui m'a tendu une perche. Hein. je suis pas moi ce que je fais maintenant. J'écris des livres, je fais des films, je fais des montagnes et tout ça. C'est pas moi, hein. C'est pas que moi, quoi. C'est une réussite, entre guillemets, collective, quoi. C'est ça pas que moi qui me lève le matin et qui va faire ça, quoi. C'est le fruit de 40 ans de... Voilà, ces rencontres, ça commence avec ma maman, ça commence avec mes sœurs, mon frère, ça commence avec les gens que j'ai croisés dans ma ville et dans mon quartier. Plein de gens, toi, que je rencontre. Il y a plein de gens que tu rencontres dans ta vie. On nous fait croire qu'on peut faire les choses seules. C'est un peu ce que nos sociétés essaient de nous faire croire, quoi. Et puis le fait beau, moi... C'est en fait surtout mes ex-petites copines aussi qui me l'ont fait découvrir. Moi, avant, je n'ai pas rampe. J'ai commencé à lire des livres à l'âge de 34 ans. C'est parce que je sortais avec une fille qui, elle, lisait 40 000 bouquins, quoi. Elle faisait que ça. Elle lisait. Et pour qu'elle me voie beau, eh ben, je me suis mis à lire des livres. Alors, 40, je n'aimais pas du tout. Parce que quand, à l'âge de 15 ans, il y a ton prof qui te file du Proust ou du Sartre, alors qu'il n'y a pas de livre à la maison... Je peux te dire que... Enfin, si, il y avait mes sœurs qui lisaient, mais moi, je n'ai pas été élevé dans ça aussi, quoi. Enfin, à lire, et c'est vrai que... Voilà. Donc, le beau, moi, je trouve, il vient par les rencontres que tu fais. Et puis, quand tu es jeune, en plus, tu te rends moins compte, je trouve, de ça. Tu as vraiment besoin que des gens te guident vers ça. Enfin, ça, c'est mon point de vue, en tout cas.
Pour toi, la beauté, c'est un effort collectif ?
Exact, c'est ça, oui, exactement. Et puis moi, ce que je vais voir de beau, peut-être que toi, tu ne vas pas le voir de beau aussi, quoi. Donc c'est un truc très, en plus...
Moi, je ne suis pas montée à 8800.
Très subjectif. Hein. Ouais, il est vrai que quand moi, je suis arrivé à 8848 mètres, donc le 25 mai 2008, avec là-haut, je me suis... Bah, c'est marrant, c'est que pendant 3 mois, je me sentais l'homme le plus fort du monde, quoi. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter, quoi. Après, bon, au bout de 3 mois, tu as la vie qui reprend ses droits, quoi. Mais pendant 3 mois, j'ai vraiment senti comme une sorte de bien-être. Enfin, je me souviens que je prenais le métro parfois et j'étais mort de rire, quoi. Même, je me rappelle qu'il m'arrivait de, des fois, juste d'avoir des larmes, quoi. Parce que et en fait, c'est pas. En fait, pour être honnête, c'est pas quand je suis arrivé à 8848 mètres que j'ai vu que c'était beau. C'est quand tu marches en plein de nuit et vers 5h du mat, tu as le soleil qui se lève et là, tu juste découvres toutes les autres montagnes. Tu avais des 6000 mètres, tu avais des 7000 mètres devant toi, quoi. C'était un décor de cinoche, truc là. Et là, je me suis dit, waouh, ouais, comment c'est beau. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ça reste pas longtemps, quoi. Donc, c'est que quelques images que j'ai. Mais le beau... que j'ai vu là-haut, ça m'aide à aller mieux parfois. Moi, je suis comme tout le monde. Il y a des moments où je me sens pas bien. Et ben, il m'arrive juste de fermer les yeux et de me revoir sur les pentes enneigées de l'Everest ou dans tous les voyages que j'ai fait. Par exemple, en 2001, j'ai fait un voyage autour du monde avec ma bicyclette pour la lutte contre le SIDA. Et ben, quand ça va pas, parfois, ben je me revois en Inde avec mon vélo, en Birmanie, au Vietnam, en Turquie. Voilà. Et je me dis, j'ai peut-être pas tout réussi dans ma vie ou j'ai peut-être pas tout fait bien dans ma vie, mais ça aide, quoi. Et puis, ça aide à voir la vie d'une manière plus belle, quoi. Parce que moi, je te dis, sans faire pleurer dans les chaumières, mais pendant très longtemps, j'ai cru que la vie, elle était moche, quoi. Que tout, en fait, était moche, quoi. Et puis après... T'arrives en Australie avec ces belles plages, avec ces belles étendues, avec les gens qui sont tous sympas avec toi. Et là, tu juste découvres que la vie peut être belle, quoi.
Donc, en fait, l'herbe peut être plus verte ailleurs.
Ah oui, moi, j'en suis sûr. Oui, parce que souvent, t'as des pseudo-philosophes qui te disent « tu peux être heureux partout ». Je veux bien. Quand tu vis dans une cage à poules, tu vas être heureux, quoi. Quand donc, tu vis dans un 150 mètres carrés ou un... 200 mètres carrés avec une vue sur la mer, ça aide, quoi. Faut aussi arrêter de nous prendre pour des cons, quoi, parfois.
Toi, t'as vue sur ta mer.
Voilà, moi, c'est vrai que j'ai cette chance de vivre à 350 mètres de chez ma mère. Et comme je travaille en tant que journaliste indépendant, le matin, je me lève, quand je suis sur Paris, bien sûr, enfin, quand je suis en région parisienne, je vais prendre le café chez ma mère chaque matin, quasiment. Je monte là-haut, là, et quand ça sent le café dans tout le hall, je sais que le café est prêt et je sais qu'elle est debout. Donc après, j'ouvre la porte et on prend le café ensemble. En plus, elle a fait le café à l'ancienne, avec sa cafetière à l'italienne. Et on s'assoit, on parle, on discute, elle me raconte sa vie. Et puis comme elle vit seule maintenant, comme il y a notre papa qui est parti en janvier 2019, donc ça lui fait du bien, moi ça me fait du bien. Et puis moi je trouve, enfin ma mère elle a 84 piges, elle est vachement plus en avance que plein de gamins des fois que je rencontre. Quoi. Si les jeunes ils pouvaient prendre exemple sur tous nos anciens, ma parole que ça irait mieux. Quoi. Si les mecs ils sont à la tête de notre pays, ils pouvaient un peu prendre, voilà, donc exemple sur nos personnes âgées, moi je pense que... Parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Et moi je trouve ça vraiment dommage qu'on les entend pas assez, quoi, qu'on leur donne pas la parole. Et c'est pour cette raison que j'ai fait un film sur ma maman qui s'appelle Des figues en avril. Donc c'est un documentaire que je lui ai consacré et qui a bien bien marché. C'est quand même la preuve que la vie de nos anciens ou que le parcours de nos anciens, c'est des choses qui aussi intéressent les gens, même si on nous fait croire le contraire, parce qu'au début de ce film, donc c'est un film que j'ai sorti en salle en avril 2018, peu de gens croyaient que ça allait marcher, alors que ça a cartonné, on a fait 150 rencontres, il a été projeté en Belgique, en Suisse, au Maroc, on a eu des prix, tout ça. Voilà, donc il a donc été aussi projeté dans le bled de ma mère, donc en Kabylie, en Algérie, tout ça. Donc ça a été super. Ça a été pour moi ma plus belle aventure, vachement, parce qu'on parle de beau depuis 15 minutes là. Pour moi, le plus beau, c'était quand ma mère elle a découvert le film pour la première fois. Et quand elle a eu sa première standing ovation, alors qu'elle a vécu dans l'ombre toute sa vie, personne ne la regarde, personne ne lui dit. Il y a des gens qui lui disent bonjour, mais avant, par exemple, dans notre quartier, tout le monde me connaît, parce que j'ai écrit des livres, j'ai fait de la montagne, je fais des films et tout ça, donc je suis un peu connu. Et ma mère, c'était la maman de Nadir. Et ben maintenant, moi, je suis le fils de Messaouda. Donc moi, c'est sans doute la plus belle chose que j'ai faite. Et de voir les yeux de ta mère qui sont voilà qui comment on dit
qui
s'illumine. Qui s'illumine et qui pétille de bonheur. En plus ma mère bon voilà, voilà. C'est un moment où quand il y avait mon père qui était malade donc elle n'allait pas super bien et de voilà là, tu vois l'avoir ramené avec moi dans plein d'endroits ma mère je l'ai ramené à Marseille à Toulouse. Je l'ai ramené à Lyon, je l'ai ramené dans plein d'endroits. Et que ça soit elle, la star, moi, ça m'a fait du bien. Parce que la vraie star de la famille, c'est elle, quoi. La plus belle chose de notre famille, c'est elle. Nous, en fait, on le sait. Parce que c'est elle qui a tenu la famille à bout de bras, quoi. C'est pas... Nous, en fait, on le sait, quoi. On met parfois en avant d'autres personnes. Et nous, on sait que c'est les mamans qui sont là, quoi. Et c'est vrai que c'est... Moi, je trouve que de leur rendre hommage... Moi, quand j'ai rendu hommage à ma maman dans ce film, c'était pour rendre hommage à toutes les autres mamans, quoi. Et c'est pour ça que ça a vachement touché. C'est qu'ils savent que c'est elle, les stars. Donc, le beau, on peut aussi le trouver dans sa vie de tous les jours. Et moi, le beau, je le trouve dans le café que je prends avec ma mère. Tous les jours. Plus ça que quand je vais gravir des montagnes. Je trouve ça beau, gravir des montagnes. Mais ça reste pas, quoi. Tu le vois. Enfin, c'est pas que ça reste pas. Ça reste. Mais c'est quand même plus fort quand t'es avec ta daronne, quand t'es avec ta maman, quand t'es avec les gens que t'aimes, quoi. Et c'est marrant, c'est que quand j'ai gravi l'Everest, donc c'est vrai que quand je suis arrivé en haut, donc à 8848 mètres en 2008, j'étais persuadé que je pouvais pas faire mieux ou plus haut. Et c'est marrant, c'est quand j'ai fait le film sur ma mère, je me suis dit, ah ben voilà, il y a plus beau que l'Everest, il y a plus fort que l'Everest, il y a plus haut que l'Everest. Enfin, c'est ça, quoi. Et donc, maintenant, j'essaye de trouver le beau dans ma vie tous les jours. D'aller boire un café avec un pote, d'aider un jeune à trouver un stage. Moi, il y a des jeunes dans mon quartier, puisque je ne suis pas comme d'autres. Moi, je vis toujours dans la même ville où j'ai grandi. Parce que moi, je trouve que quand les gens qui réussissent, entre guillemets, parce que ça veut en fait rien dire... Il y a des mecs qui vivent dans le Larzac et qui sont plus heureux que nous. Mais ceux qui s'en sortent, entre guillemets, ils finissent tous par partir. Et c'est comme ça qu'on crée le ghetto. Moi, je trouve c'est pour ça que c'est super intéressant qu'on puisse rester aussi tant qu'on peut. Non, je ne suis pas là en train de faire de la morale aux gens, mais moi, je trouve que c'est bien qu'on soit là aussi. Parce que moi, quand il y a des gamins qui me demandent ou qui me parlent, là, par exemple, hier soir, j'étais dans le hall de la cité Thorez et j'étais en train de parler avec des mômes pendant 2 ou 3 heures. J'étais en train de leur parler de mes voyages, de voilà, l'Australie, de mes voyages en vélo, la montagne. Ils avaient les yeux qui pétillaient, quoi. Et donc, il y en a un qui m'a dit qu'il aimerait bien aller en Australie. Je lui ai donné quelques conseils. Tu vois, moi, je trouve que rien que ça aussi, c'est beau. Parce que c'est des jeunes qui sont vus comme de la racaille à nettoyer au Karcher. Alors que quand tu prends le temps de parler avec eux, tu aussi te rends compte qu'ils sont beaux. Ils sont beaux parce que c'est des êtres humains. Pour moi, il y a de la beauté dans chaque être humain. Enfin, peut-être pas dans chaque être humain, faut pas abuser, si, quoi. Mais dans beaucoup d'êtres humains. Et dans des gens que tu peux rencontrer. Et pour moi, là, il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion, quoi. T'es un être humain fait de sang et tout ça, et de chair. Et tu vois, donc ça aussi, moi, je trouve ça beau. Donc, tous mes voyages, et le tout que j'ai fait avec ma mère, surtout, ça m'a aussi permis de comprendre que peut-être il faut qu'on revienne à l'essentiel, et peut-être que le beau, c'est pas ce qu'on essaie de nous faire croire, quoi. Le beau, c'est pas avoir plein de thunes, quoi. C'est pas que... OK, quand t'as de la thune, tu peux te créer du beau. Tu peux avoir un bel appartement, mais si t'as un bel appartement où tu vis seul et tu vis pas avec une personne que t'aimes, ça peut être compliqué, quoi, aussi, quoi. Voilà, c'est pas blanc et noir, en tout cas, tout ça. Et je suis pas sûr d'avoir dit... je sais pas, c'était un peu flou, en tout cas, dans ma tête, parce que je trouve que c'est pas simple de parler de ça, en vrai. Et c'est simple pour personne, en plus.